Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI Midi.
Dernière partie d'RFI Midi. Dans quelques minutes, reportage auprès de Mexicains candidats à l'exil qui tentent le tout pour le tout pour émigrer aux États-Unis avant l'entrée en fonction de Donald Trump au mois de janvier prochain. Haïti aussi au programme et notamment les inondations qui touchent Cap-Haïtien. Et puis on parlait de la tieké ivoirien il y a quelques minutes. La cassave haïtienne fait aussi partie du patrimoine mondial, désormais. Enfin, l'actualité des Outre-mer françaises. Comme chaque jour, Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de l'autorité de la concurrence qui inflige une amende salée aux compagnies Air Antilles et Air Caraïbes.
14 millions d'euros et même un peu plus pour entente illicite. Tout à l'heure, les précisions de notre confrère Maurice Violeton de la Première Martinique.
À tout à l'heure, on se retrouve après le journal. Journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence par la Syrie. Dans le nord du pays, les rebelles sont entrés dans la ville de Hama.
Damas reconnaît la perte de cette ville stratégique. Les islamistes radicaux du HTS et leurs alliés avancent donc encore après la prise d'Alep la semaine dernière. Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation à Hama?
Alors c'est une prise effectivement très rapide. Les rebelles emmenés par le groupe islamiste Ayat Tahrir al-Sham encerclaient la ville depuis hier seulement. Ce matin, des combats acharnés contre l'armée syrienne étaient signalés, ainsi que des bombardements de l'aviation russe alliée au régime de Bachar el-Assad. Mais l'armée syrienne, vous l'avez dit, a reconnu il y a moins d'une heure avoir perdu le contrôle de Hama. Selon plusieurs sources locales, les rebelles sont entrés par l'est et se trouvent dans le centre-ville. Ils auraient notamment pris d'assaut la prison centrale, libérant des centaines de détenus. Le chef de la coalition rebelle vient de faire une déclaration. Il promet, je cite, qu'il n'y aura pas de vengeance après la prise de la ville. Hama, c'est un point stratégique, c'est un verrou qui saute sur la route de Damas, la capitale. Il ne reste plus qu'une grande ville, Homs, sur le chemin des rebelles et des islamistes. Hama est aussi symbolique. Au cours de son histoire, la ville a souvent résisté au régime syrien. Elle a été le théâtre de massacres en 1982. En 2011 aussi, Hama s'était soulevé, comme d'autres villes syriennes, prélude à la guerre civile qui a toujours cours aujourd'hui.
Muriel Paradon du service international d'RFI. Israël rejette en bloc les accusations d'Amnesty International, un rapport fabriqué de toutes pièces selon le ministère des Affaires étrangères. L'autorité palestinienne elle, s'en félicite. Après enquête sur près d'un an, le document de 300 pages compile les déclarations du gouvernement Netanyahou, des images satellites et des témoignages de Gazaouis. Sur près d'un an, l'Organisation de défense des droits humains estime qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens dans l'enclave en guerre.
Le Proche-Orient, qui est présenté comme une priorité diplomatique de la future administration Trump.
Le président américain élu sera investi en janvier, mais son futur émissaire dans la région est déjà au travail. Vincent Sorio, bonjour.
Bonjour.
Steve Witkoff s'est rendu au Qatar et en Israël afin d'étudier les conditions d'une trêve à Gaza entre le Hamas et l'État hébreu.
Deux rencontres discrètes, mais de très haut niveau. Steve Witkoff s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, ainsi qu'avec Mohamed Al-Thani, chef du gouvernement et patron de la diplomatie qatarienne. Déjà, un signal encourageant pour l'administration Trump. Le Qatar, qui avait suspendu son rôle de médiateur dans la crise au Proche-Orient, reprend du service. Et les négociateurs du Hamas pourraient, d'après l'agence Reuters, revenir à Doha pour amorcer de nouvelles discussions. Même si aucune date n'est fixée, l'idée serait d'aller très vite, dans le meilleur des mondes, avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. La priorité, c'est d'arrêter l'hémorragie, stopper le bain de sang et figer la carte du Proche-Orient qui n'a cessé de bouger depuis le 7 octobre, afin que cette nouvelle Maison Blanche puisse se concentrer sur la politique et sur la stabilisation de la région. Steve Witkoff en a-t-il les épaules? On l'ignore. Aucune expérience diplomatique. C'est un homme d'affaires, un magnat de l'immobilier et un proche de Donald Trump avec qui il joue au golf. On sait en revanche qu'il est de confession juive et que c'est un fervent partisan du soutien à Israël.
Vincent Sorio du service international d'RFI.
Et à Washington, les annonces de nomination s'enchaînent.
Donald Trump veut nommer Jared Isaacman à la tête de la NASA, la prestigieuse agence spatiale américaine, et son budget de 25 milliards de dollars. S'il est confirmé par le Sénat, son profil interroge. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Jared Isaacman est surtout un proche d'Elon Musk.
Et oui, c'est un astronaute, Bill Nelson, qui laissera sa place à un autre astronaute, Jared Isaacman, donc, sauf que ce dernier a un profil bien particulier. Astronaute privé qui n'a jamais fait sa carrière à la NASA, milliardaire, passionné par le spatial. Il avait mis sur pied en partenariat avec SpaceX les premières missions habitées en orbite sans contribution majeure de l'agence spatiale américaine. Mission d'ailleurs auquel Jared Isaacman avait lui-même participé en devenant en septembre dernier le premier civil à réaliser une sortie extravéhiculaire. Proche d'Elon Musk, le patron de SpaceX, sa nomination à la tête de la NASA pose la question des conflits d'intérêts. L'agence a en effet passé de nombreux contrats avec l'entreprise, notamment dans le cadre du programme Artemis de retour vers la Lune. Il faudra donc voir quelles seront les priorités que suivra la NASA sous son mandat. Le vol habité et les astronautes, c'est en effet Donald Trump qui a relancé le programme lunaire. Cela se fera-t-il au détriment des autres missions de l'agence, comme la science ou bien l'observation de la Terre? Cette dernière et tout le programme d'études du climat de la NASA avaient déjà subi de fortes secousses lors du premier mandat du Républicain.
Simon Rosé, chef du service environnement d'RFI. Et du côté des grands vainqueurs de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le Bitcoin continue sa progression. Pour la première fois, la crypto-monnaie vient de franchir la barre des 100 000 dollars. Donald Trump a promis de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies.
La France saute dans l'inconnu après la chute du gouvernement et la censure votée hier par la gauche et par l'extrême droite.
Michel Barnier a officiellement présenté sa démission ce matin à l'Élysée. Il est devenu le premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Selon l'entourage du président, Emmanuel Macron veut nommer son successeur très rapidement. Il s'adressera aux Français ce soir. Et après, la situation reste la même depuis les législatives anticipées. L'Assemblée nationale est toujours fracturée en trois blocs. Alliance des gauches, macroniste et droite et l'extrême droite. Aucun bloc ne dispose de la majorité absolue. Et Frédéric Michaud, directeur adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Emmanuel Macron s'est encore compliqué la tâche après cette séquence. On l'écoute.
Il en sort encore plus affaibli. Il était déjà très fragilisé par cette dissolution, elle aussi précipitée et largement manquée. Il était également affaibli par l'incapacité à se présenter une nouvelle fois pour solliciter un nouveau mandat présidentiel. Là, évidemment, il est dans une situation extrêmement précaire et son intérêt est de pouvoir nommer un Premier ministre dans les meilleurs délais pour que ce Premier ministre joue le rôle qui lui est dévolu dans la Constitution, c'est-à-dire un rôle de rempart. Mmh.
Frédéric Michaud, directeur adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Et en plus de la crise politique, le président français doit faire face à une tempête sociale. Plusieurs secteurs sont en grève aujourd'hui. La fonction publique est mobilisée, avec en tête les enseignants. Ils demandent notamment une revalorisation de leur salaire. Des dizaines de rassemblements sont prévus partout en France. Les transports sont aussi touchés, particulièrement le contrôle aérien. L'ambiance est électrique à Malte. L'OSCE est réunie dans l'île et Sergueï Lavrov est présent. C'est le premier déplacement dans un pays de l'Union européenne du ministre des Affaires étrangères russe depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Son homologue ukrainien est aussi présent et dès le début des débats, il a traité Sergueï Lavrov de criminel de guerre. Le ministre polonais a lui refusé de s'asseoir à la même table que le russe. Réplique immédiate de Sergueï Lavrov avant de quitter la salle. Il accuse l'Occident de vouloir transformer la nouvelle guerre froide en guerre chaude. Et puis un mot du prix Albert Londres décerné hier à Lorraine de Fouché. La journaliste française du journal Le Monde est récompensée pour ses reportages et ses enquêtes sur des sujets trop longtemps tus, dit le jury, notamment les violences faites aux femmes. La reporter de 38 ans a notamment écrit sur l'affaire des viols de Mazan. Voilà, c'est la fin de ce journal, Anne.
Merci Karine Bellicha. Le prochain journal, c'est dans un peu moins d'une heure maintenant, à 14h, temps universel. Et nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes. Au programme, les espoirs et l'anxiété des Mexicains qui espèrent émigrer aux États-Unis. L'arrivée attendue d'entreprises européennes au Chili pour exploiter les très importantes réserves en lithium. Et d'abord, on va prendre la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Pour retrouver notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
On va commencer par une bonne nouvelle. Ça n'est pas si courant, hein. Alors même si le sujet est un peu léger, on va en profiter. Franz, la cassave haïtienne fait désormais partie du patrimoine mondial.
Tout à fait. La cassava a été inscrite hier officiellement par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une nouvelle qu'on attendait à Port-au-Prince. Le dossier avait été porté par Dominique Dupuis, ancien ministre des Affaires étrangères, mais surtout ancien représentant d'Haïti à l'UNESCO. C'est une nouvelle qu'on attendait. Le manioc, qui est le tubercule qui donne la cassave, c'est connu de tout le monde. La cassave, c'est connu de tous les Haïtiens. Et c'est la première fois aussi qu'Haïti a pu inscrire un de ses mets avec d'autres pays de la Caraïbe, car la cassave est partagée par la République dominicaine, par Cuba, le Venezuela, par la Colombie. Enfin, tous ces pays connaissent la cassave. Et en fin de compte, c'est une bonne nouvelle dans un océan de mauvaises nouvelles en Haïti.
En un mot, Franz, pour ceux qui ne connaîtraient pas la cassave, vous nous expliquez ce que c'est?
Ah ben, c'est le manioc, d'abord qu'on réduit en purée. Ensuite, on met tout ça sur une plaque de fer pour en faire une mince galette qu'on mange avec tout et n'importe quoi. Mais surtout, cela se conserve, ça peut se conserver au-delà d'un an. C'est très sain, c'est très, très bon. Et c'est un mets qui a été pendant longtemps le petit déjeuner des Haïtiens. C'est un encas pour l'après-midi, mais c'est surtout quelque chose qu'on mange à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Cette cassave qui fait donc partie désormais du patrimoine mondial de l'UNESCO. Franz, vous nous le disiez, c'est une lueur parmi de très nombreuses mauvaises nouvelles. Il faut le dire, l'actualité haïtienne, ce sont aussi des nouvelles bien plus sombres, et notamment ces pluies intenses dans le nord. La conséquence, c'est que la ville de Cap-Haïtien, notamment, est aujourd'hui sous la boue et sous les déchets.
Tout à fait. Et la pluie a causé des éboulements de terrain, la pluie a causé des inondations dans certains quartiers de la région du Cap-Haïtien. Il faut dire que le Cap-Haïtien, c'est la deuxième ville d'Haïti, mais le Cap-Haïtien, c'est surtout une cuvette. C'est une ville entourée de montagnes, et ces jours-ci, quand il pleut, et c'était déjà le cas dans le passé, mais des torrents d'eau et surtout de boue dévalent sur la ville et viennent embarrasser les gens qui habitent et la ville du Cap-Haïtien, la ville historique du Cap-Haïtien. Mais il faut dire que c'est une région aussi qui est en train de grandir à toute vitesse, car Port-au-Prince se dépeuple et le Cap-Haïtien recueille une partie de ces gens qui ont laissé Port-au-Prince. Et pour habiter, enfin, on doit monter dans les mornes, et à chaque fois, on doit faire de nouvelles fouilles, construire de nouvelles maisons, mais surtout fragiliser le terrain, ce qui ouvre la voie à de nouvelles catastrophes pour ceux qui habitent en bas.
Et puis à 30 km de Cap-Haïtien, un peu à côté, ce sont les ouvriers du parc industriel de Caracol qui s'inquiètent beaucoup pour leur avenir.
Tout à fait, ça c'est l'autre mauvaise nouvelle. Le parc industriel de Caracol, c'est l'un des rares projets financés par la communauté internationale qui a vu le jour après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. On voulait décentraliser, laisser Port-au-Prince, offrir des emplois, d'autres pôles de développement au pays. On avait choisi cette région de Caracol où un immense parc industriel a été construit. On s'attendait à ce que très vite, il y ait des dizaines de milliers d'emplois. Dans les meilleurs jours, Caracol avait 17 000 ouvriers qui y travaillaient. Aujourd'hui, les usines sont parties, il ne reste plus que 700 ouvriers, 700 salariés dans un immense complexe qui en attendait des dizaines de milliers. C'est la situation sécuritaire, c'est aussi la dégradation de l'image d'Haïti. Il y a beaucoup moins de commandes, il y a trop de difficultés pour les entrepreneurs. Mais ils laissent Haïti et les ouvriers qui n'avaient pas de bon salaire, qui étaient dans un emploi précaire, mais qui avaient un travail régulier, un salaire régulier. Mais ils sont laissés sur le carreau pour le moment. Ils étaient 17 000, aujourd'hui ils sont 700.
Enfin, Franz, vous publiez un article sur les énormes difficultés que rencontrent les habitants de Port-au-Prince pour se loger. Votre journal Le Nouvelliste parle même d'une crise sans précédent.
Tout à fait. Port-au-Prince est en train de se réduire. Port-au-Prince rétrécit de jour en jour un peu plus. À chaque fois qu'un quartier tombe sous le contrôle des gangs, il y a un exode de la population. Il y a ceux qui vont habiter dans les camps, il y a ceux qui vont habiter chez un ami, chez un parent, mais il y a aussi ceux qui en avaient les moyens et qui sont à la recherche d'une nouvelle maison à louer. Eh bien, bon, il n'y en a pas. Il y en a de moins en moins et les prix sont très élevés. Les prix ont été quasiment multipliés par 3 ces derniers mois. Et malheureusement, la pression des gangs sur d'autres quartiers de la région métropolitaine déjà provoque des exodes anticipés, parce que les gens ne veulent pas se retrouver un matin dans un quartier fermé, ils cherchent à habiter ailleurs. Et malheureusement, plus de 80% de la capitale est sous le contrôle des gangs. Si vous ne pouvez pas aller en province, si vous ne pouvez pas partir pour l'étranger, il faut trouver une autre maison et ça coûte très cher, très 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 cher.
Merci France Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On peut vous lire sur le site du journal, lenouvelliste.com. En attendant de vous retrouver ici, sur cette antenne, jeudi prochain. Merci.
RFI, The World's Voices.
On va continuer à lire les journaux du continent avec vous, Christophe Paget, et pour votre revue de presse. Aux États-Unis, d'abord, où tous les journaux reviennent sur l'assassinat de Brian Thompson, patron de United Healthcare. C'est la principale entreprise d'assurance santé du pays.
Oui, il a été assassiné par balle à New York. C'est à l'une de toute la presse. PDG tué dans une embuscade à New York, titre le Washington Post. Exécuté sur la 54e rue, écrit pour sa part le tabloïd New York Post sur la photo de une du tueur visant sa victime. Un tueur, raconte le New York Times, qu'il a attendu plusieurs minutes devant son hôtel à Manhattan. Lorsque Brian Thompson arrive, il se positionne derrière lui et tire au moins trois fois dans sa direction. Son pistolet, qui était manifestement équipé d'un silencieux sans rayes, mais le tueur le remet en marche et continue à tirer. Une chasse à l'homme est en cours pour le retrouver et une récompense de $10,000 est offerte à quiconque donnera des informations permettant sa capture, rapporte le Washington Post.
Et en attendant, les journaux reviennent sur le parcours de ce patron, Brian Thompson.
Depuis 2021, il était le PDG d'un des plus importants assureurs santé du pays, United Healthcare, principale entreprise du conglomérat United Health Group. Pour vous donner une idée, Anne, United Healthcare a dégagé 281 milliards de dollars de revenus l'an dernier. L'entreprise emploie 140 000 personnes et fournit une couverture santé à 50 millions d'Américains. La police parle d'un meurtre ciblé, prémédité donc, mais dit ne pas avoir de traces de menaces concernant le PDG. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les tactiques agressives de l'entreprise ne faisaient pas l'unanimité. Elles ont été critiquées ces dernières années par des parlementaires qui affirment qu'elles ont contribué à augmenter le prix des assurances pour les consommateurs, écrit le Washington Post. USA Today précise de son côté qu'en mai dernier, Brian Thompson faisait partie des responsables de United Health, poursuivis en justice par un fonds de pension hollywoodien qui les accusait d'avoir vendu plus de $100 millions d'actions de la compagnie avant que ne soit révélée publiquement qu'elle était visée par une enquête antitrust.
Christophe Paget, on vous retrouve dans quelques minutes juste après notre dossier du jour, un mois après l'élection de Donald Trump, avant même son investiture. Les migrants, qu'il a beaucoup pris pour cible pendant la campagne, prennent les devants. En fait, la victoire du candidat républicain a accéléré les départs du Mexique en direction des États-Unis, car tous espèrent entrer avant que les frontières ne se ferment et avant que les expulsions promises par Donald Trump ne se multiplient. Des tentatives précipitées pour des candidats à l'exil déterminés, mais très inquiets, comme l'a constaté notre correspondante Marine Lebègue.
Sur un chemin de fer à 60 km au nord de Mexico, Vidal Beroterán, un Vénézuélien de 21 ans, guette la venue de la Bestia, un train de marchandises aussi dangereux que connu des migrants. Il s'y agrippe à son passage et voyage illégalement sur le toit jusqu'au nord du pays. Tous avec le même objectif, entrer aux États-Unis.
Un an et quatre mois que je fais la demande pour entrer légalement, tous les jours, en espérant avoir une réponse, mais rien du tout. Un an et quatre mois. Je me suis lassé. On va prendre ce train et on verra ce qu'on fait une fois arrivé là-haut, comment passer la frontière.
À côté de lui, Margarita, 22 ans, a fait le voyage depuis la Colombie avec son mari et sa fille de 5 ans. Tous les trois se reposent à l'ombre d'un wagon.
On a été séquestrés et ils nous ont volé nos téléphones où on avait fait les demandes de rendez-vous à l'immigration. Et après tout ce qui nous est arrivé, on ne veut vraiment plus être ici. On fait tout notre possible pour sortir le plus rapidement possible du Mexique. C'est un pays horrible avec les migrants. Ici, tu vas dans un magasin et ils refusent de te vendre même l'eau. Ils ne veulent pas te la vendre. Ils te font payer une chambre d'hôtel très chère, s'ils veulent bien te la donner. Parce que même si tu as de quoi payer, quelquefois, ils refusent de te loger. On se fait maltraiter, violer, voler par les agents fédéraux en personne. Des agents fédéraux nous ont arrêtés et nous ont tout volé. Tu ne sais plus en qui avoir confiance.
La victoire de Donald Trump à l'élection américaine, le 5 novembre dernier, a précipité les départs. Adriana Hernandez travaille dans un refuge pour migrants.
Le jour où Donald Trump a gagné, il y a eu un grand silence dans le refuge. La nouvelle les a vraiment affectés. Certains ont pleuré. Ils ont vu leurs rêves se briser. Ce même jour, un groupe de 10 migrants a décidé de partir.
Depuis, le refuge ne cesse de se vider. D'une capacité de 44 lits, il accueille généralement jusqu'à 120 personnes. Mais en ce moment, ils ne sont que 60 résidents.
Les migrants ne veulent plus rester dans les refuges. Ils veulent tous rejoindre la frontière. Ils veulent traverser, entrer illégalement ou demander l'asile aux agents migratoires. C'est à cause de la désinformation. Beaucoup ont entendu dire que l'application CBP One va disparaître ou qu'ils ne pourront plus rentrer aux États-Unis. Ça les incite à se rendre illégalement à la frontière.
CBP One, le sésame pour entrer illégalement aux États-Unis. Tous les migrants s'inscrivent sur cette application en arrivant sur le sol mexicain. Il faut ensuite attendre qu'elle leur délivre un rendez-vous avec le service d'immigration américain pour avoir le droit de s'installer aux États-Unis. Mais sur les centaines de milliers de migrants qui en ont fait la demande, chaque jour, seulement 1500 personnes reçoivent le précieux mail. Parmi elles, Gabriel David, 21 ans.
Je suis super content, j'étais sur le point d'y aller illégalement, mais Dieu merci, j'ai finalement eu le rendez-vous après 8 mois d'attente.
Alors ce soir, dans son campement de fortune, dans le nord de Mexico, il célèbre la nouvelle avec ses amis d'infortune. Mais avec le retour de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier prochain, il le sait, ses difficultés sont loin d'être terminées.
Non mais amigo.
Il ne me fait pas peur, je suis déjà passé par tellement d'épreuves. S'il me renvoie au Mexique, qu'il faut attendre 4 ans qu'il termine son mandat pour pouvoir retourner aux États-Unis, je le ferai. Il faut passer par beaucoup d'épreuves pour pouvoir accéder au rêve américain.
Pour ce rêve, ils sont presque 1 million à être entrés illégalement au Mexique depuis le début de l'année. Plus du double par rapport à l'année dernière. Autant de vies qui dépendront du nouveau président américain. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
13h21 en temps universel. On vous retrouve, Christophe Paget, pour la suite de votre revue de presse. En Colombie, c'est la démission du ministre des Finances qui fait la une. Départ après des accusations selon lesquelles il aurait fermé les yeux sur un système de corruption de parlementaires.
Ricardo Bonilla dans son labyrinthe, titre en une El Heraldo, une référence au livre du Colombien Gabriel Garcia Marquez, Le Général dans son labyrinthe. Les scandales de corruption provoquent la chute du ministre des Finances. Le ministre s'en va, note El Tiempo, à un moment critique pour les finances du pays. Et alors que la possibilité que le Congrès adopte sa loi de financement polémique paraît chaque jour plus lointaine. Alors que lui est-il reproché? Ricardo Bonilla est accusé par une ancienne conseillère d'avoir eu connaissance du détournement de quelque 200 000 dollars dans le cadre de 3 contrats publics. Des ressources qui auraient été utilisées pour corrompre des membres du Congrès. Selon El Colombiano, l'objectif aurait été de faire approuver par la commission interparlementaire des prêts auprès de banques internationales, prêts essentiels pour le budget national et le paiement de la dette. Mais El Heraldo et Las Dos Orillas notent aussi que le président Petro a demandé à Ricardo Bonilla de lui remettre sa démission quelques heures à peine après que le ministre ait déposé une plainte devant le procureur de la République pour trafic d'influence présumé commis par Nicolas Alcocer, le fils adoptif du président.
L'actualité du continent, c'est aussi la visite en Uruguay de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen participe à un sommet avec les pays du Mercosur et elle compte bien en profiter pour finaliser l'accord de libre-échange entre ces 5 pays et les 27 de l'UE. Coup d'accélérateur donc, malgré l'opposition de plusieurs pays européens comme la France et l'Italie. D'ailleurs, l'Élysée a annoncé il y a quelques minutes qu'Emmanuel Macron avait redit à Ursula von der Leyen que l'accord était en l'état inacceptable pour la France. L'Union européenne qui investit dans les mines de lithium du Chili, des entreprises européennes en tout cas. Les ressources sont considérables, parmi les plus importantes au monde, mais le Chili a du mal à développer cette filière, d'où la signature de conventions avec des entreprises étrangères, Nils Sabin.
C'est en grande pompe que le gouvernement bolivien a annoncé la signature de ses conventions avec 3 entreprises européennes. Celles-ci vont pouvoir réaliser des tests pendant 3 à 4 mois dans différents salars, ces étendues salines très riches en lithium. Si ces tests sont concluants, des contrats pour la construction d'usines d'extraction de lithium pourront être signés. Pendant 15 ans, la Bolivie a tenté de développer une filière lithium 100% souveraine, sans intervention d'entreprises étrangères. Mais face aux résultats en demi-teinte de cette stratégie, le gouvernement de l'actuel président Luis Arce a effectué un virage à 180 degrés. Désormais, il ne se passe pas 3 mois sans l'annonce d'une nouvelle convention ou d'un nouveau contrat avec une entreprise étrangère en lien avec l'exploitation du lithium. La semaine dernière, la Bolivie a signé un contrat avec une entreprise chinoise qui va investir 1 milliard de dollars pour la construction de 2 usines de carbonate de lithium. Et en septembre, c'était l'entreprise russe Uranium One qui signait un contrat similaire à 970 millions de dollars. Pour le moment, il n'y a aucune information publique sur la contrepartie que devra fournir la Bolivie pour ses investissements. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Enfin, dernière partie de votre revue de presse, Christophe Paget, à Cuba, où l'électricité revient petit à petit après une nouvelle panne générale hier.
On travaille avec beaucoup de sérieux et d'efforts sur le rétablissement du système électrique, titre Granma. Hier, précise Juventud Rebelde, la ministre du Travail avait annoncé que les activités professionnelles et d'enseignement étaient suspendues tant que la coupure durerait, précisant que les salaires ne seraient pas affectés. Le Miami Herald rappelle que c'est la troisième coupure générale que connaît le pays depuis le mois d'octobre, des pannes causées principalement par le manque de carburant pour des centrales de plus en plus vieilles. Et après sa seconde nuit de coupure générale, Cuba attend l'arrivée de deux bateaux de combustible, titre 14 y medio. Le premier transporte 40 000 tonnes de combustible, il vient de Sicile et se trouve en ce moment à 500 000 nautiques de la Havane. Mais, note le quotidien d'opposition, il est possible que l'habituel manque de crédit de la Havane retarde le déchargement. C'est ce qui se passe pour le Corosol, chargé de 80 000 tonnes de diesel, qui en ce moment tourne en rond dans les eaux territoriales cubaines. Le directeur adjoint de l'Union cubaine pétrolière, rapporte 14 et Medio, a déclaré hier que, sans combustible, tout rétablissement du système électro-énergétique national sera en noir, c'est-à-dire avec le potentiel de fournir de l'électricité, mais sans l'offrir réellement.
Christophe Paget pour la revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, Benoît Ferrand, l'autorité de la concurrence impose une amende salée aux compagnies Air Antilles et Air Caraïbes.
Eh oui, plus de 14 millions d'euros pour une entente qualifiée d'illicite entre les deux compagnies à la fin des années 2010, entente au détriment du portefeuille du consommateur. Explication Maurice Violeton de la première Martinique.
Au centre de l'affaire, une entente des deux transporteurs sur les prix de leurs billets. Durant 4 ans, Air Caraïbes et Air Antilles ont réduit le nombre de leurs rotations au détriment des passagers. Elles se sont aussi arrangées pour se répartir les créneaux de vol. L'autorité dénonce des rotations aménagées sur les créneaux les plus rémunérateurs et on parle d'une baisse de 10% du nombre de sièges offerts sur la période. Conséquence, cette mise en place de grilles tarifaires communes a provoqué une augmentation très importante des prix dans le cadre d'un accord de non-agression, c'est ce que souligne l'autorité de la concurrence. Le stratagème concernait le transport aérien de passagers inter-îles au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre et à destination depuis ces deux aéroports de Saint-Martin, de Castries à Sainte-Lucie et de Saint-Domingue en République dominicaine. Une amende de 14 570 000 euros a été prononcée à leur encontre, 1,5 million pour Cafinance, la maison mère des Antilles de l'époque, et 13 millions pour Air Caraïbes qui vient communiquer d'y prendre acte de la décision de l'autorité. Air Caraïbes qui n'écarte pas la possibilité d'éventuelles suites judiciaires à donner.
Direction la Guyane maintenant et le nouveau directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, arrivé il y a un peu plus d'un mois en provenance de Wallis et Futuna. Au micro d'Ocelia Cartès, Laurent Bien a confirmé hier la mise en place prochaine du CHRU, comprenez le Centre hospitalier régional universitaire.
Ah oui, je vous le confirme évidemment, avec quelques étapes encore à franchir. Hein, au 1er janvier, un GCS, et puis ensuite, très vite, la constitution du centre hospitalier régional, et puis celle du CHRU. On est sur un calendrier d'à peu près un semestre pour pouvoir atteindre les dernières étapes.
42 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Vous êtes-vous fixé un cap pour renverser la courbe ?
C'est une des raisons de la création de ce CHRU, c'est de pouvoir effectivement former sur place des professionnels et notamment des médecins. Et puis avec un autre aussi impact attendu, c'est de recevoir également plus d'internes, donc des médecins pour la Guyane pour demain.
Laurent Bien, nouveau directeur de l'ARS Guyane. Bon après-midi, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous sur RFI. On va se quitter en musique avec Doreys. Et ce titre, Vaembora.
Eu já te vi, Vaembora, por favor. Embora pra minha casa, use suas asas e vem pra perto de mim. Eu amo você, odeio você, como odia você.
Mudou. Só se mudou pra pior. Porque eu não vejo diferença desde que nós se cruzou. Amor que dó, tão só quando eu falo não. Sempre cercando quem te ama pra não ir embora. Você só querendo por suas poucas horas, Senhor. Me dê-me paciência, bem.
Eu tô saindo fora, obriga das vivências pra não mandar pra outro lugar. Aprendi nisso que é bem fácil de me enganar. Minha camiseta da A Tribe, você pode ficar. Não quero nada que de você me faça lembrar. Eu tô, sim, eu tô bem melhor. Peregrinando no meu interior, me sentindo completo sempre que eu estou só. Só de ouvir seu nome, minha garganta dá um nó. Mas tá tudo bem, meu bem. Vai ficar tudo bem, meu bem. Aceita tudo bem, meu bem. Vai ficar tudo bem, meu bem, meu bem, meu bem. Assim tá tudo bem, meu bem. Vai ficar tudo bem.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. Mais vous restez à l'écoute dans quelques secondes maintenant de Vive Voix avec Pascal Paradou. Et moi je vous retrouve demain, 11h30 temps universel. Très bonne journée.
Embora pra minha casa, use suas asas e vem pra perto de mim.